Chapitre 5. L'installation convenable, c'est-à-dire sans la moindre erreur, d'un dispositif de surveillance électronique chez Bob Arctor, téléphone compris bien que la ligne fût déjà sur table d'écoute, nécessitait une absence prolongée de ce dernier. Généralement, les services concernés se bornaient à observer les allées et venues des occupants jusqu'à ce que chacun eût vidé les lieux d'une manière qui ne suggérait pas un retour immédiat. Cela prenait des jours et parfois des semaines. En désespoir de cause, on avait recours à un stratagème. Il suffisait de notifier aux habitants la visite du service de dératisation ou quelque autre prétexte bidon, en leur précisant qu'ils devraient laisser la place libre pendant tout un après-midi, jusqu'aux environs de 18 heures. Le suspect Robert Arctor facilita grandement le déroulement des opérations en quittant son domicile de lui-même, accompagné de ses deux colocataires, afin d'aller se renseigner sur les possibilités de location d'un céphalochromoscope, en attendant que Barry sût réparer le sien. Le trio fut aperçu alors qu'il s'éloignait, la mine farouche et déterminée, à bord de la voiture d'Arctor. Plus tard, Fred profita d'un endroit commode, la cabine téléphonique d'une station-service, pour appeler le bureau grâce au micro-émetteur de son complet brouillé et confirmer que la maison serait vide jusqu'au soir. Il affirma avoir entendu les trois hommes décider qu'ils feraient toute la route jusqu'à San Diego, où on leur avait signalé un céphascope piqué, en vente pour une somme ridicule, dans les $50, un prix de junkie. À ce tarif, ça valait la perte de temps et la fatigue du voyage. Et puis, ça laissait le champ libre aux autorités pour accomplir une petite perquisition sans mandat, qui serait un rien plus efficace que le furtage auquel se livraient les agents secrets dès que les gens avaient le dos tourné. Ils pourraient sortir entièrement les tiroirs des meubles afin de voir si rien n'était scotché dessous, démonter les pieds de lampe au cas où il en tomberait une averse de pills, fourrer le nez dans les WC en quête de petits paquets enveloppés de papier hygiénique et planqués hors de vue, là où il suffirait d'actionner la chasse pour les faire disparaître définitivement. Ils pourraient aussi inspecter le congélateur, des fois qu'entre les boîtes de haricots et les petits pois, ils découvriraient de la dope surgelée munie d'une fausse étiquette. Pendant ce temps, une autre équipe mettait en place le circuit complexe des holocaméras. Des policiers s'installaient dans tous les coins afin de tester la correction des angles de prise de vue. Même chose pour le dispositif audio. Mais la partie vidéo était la plus délicate et réclamait plus de temps. Les caméras devaient naturellement demeurer invisibles et leur installation demandait beaucoup d'adresse. Il fallait essayer pas mal d'emplacements. Les techniciens responsables étaient bien payés. En cas de bavure menant à la découverte d'un appareil, les occupants seraient aussitôt alertés et, se sachant sous surveillance, interromperaient leurs activités. Certains allaient jusqu'à arracher tout l'équipement vidéo pour le revendre. Et devant les tribunaux, songea Arctor, tandis que la voiture filait sur l'autoroute sud, en direction de San Diego, ça n'avait jamais été du gâteau d'obtenir une condamnation pour vol et revente d'équipements électroniques de détection. Toute chose dont l'installation chez un particulier était au départ illégale. Les flics ne pouvaient se rattraper qu'en faisant plonger les types pour une autre infraction. Dans une situation analogue, les pusheurs avaient recours à l'action directe. Arctor se souvint du cas d'un revendeur d'héroïne qui voulait brûler une nana. Il avait planté deux sachets de poudre dans la poignée du fer à repasser de la fille, puis passé un coup de fil anonyme à « Ici, London ». Entre-temps, la fille avait découvert les sachets et revendu la poudre au lieu de la balancer dans les WC. À leur arrivée, les flics ne trouvèrent rien. Mais comme grâce à son coup de fil, il possédait l'empreinte vocale du pusher, ils l'arrêtèrent pour avoir livré de faux renseignements aux autorités. Libéré sous caution, le pusher se pointa un soir tard chez la fille et la battit presque à mort. Quand les flics le prirent et lui demandèrent pourquoi il avait ôté un œil à la fille, après lui avoir brisé les deux bras et plusieurs côtes, il expliqua que la fille s'était emparée de deux sachets d'âge pur qui lui appartenaient et les avait revendus sans l'intéresser aux bénéfices. « La voilà, la mentalité des pusheurs », se dit Arctor. Il déposa Lukman et Barris avant d'aller faire son numéro de tapeur pour obtenir le céphascope. Du coup, ses deux copains ne pourraient pas rentrer chez eux pendant l'installation. De son côté, il allait prendre des nouvelles d'un personnage qu'il n'avait pas vu depuis plus d'un mois. Il venait rarement dans ce coin, et la fille qu'il voulait voir semblait partager son temps entre deux ou trois shoots de méthédrine et quelques passes afin de payer son régime. Le dealer était aussi son mec et vivait avec elle. Dan Mancher passait le plus clair de ses journées à l'extérieur, ce qui était une bonne chose. Il se défonçait également, mais Arctor n'avait jamais pu savoir avec quoi. Un mélange, pas de doute. En tout cas, ça le rendait bizarre, vicieux, imprévisible et violent. Étonnant que la police ne l'ait pas embarqué depuis longtemps pour ces histoires de troubles de l'ordre public. Les flics palpaient peut-être. Plus vraisemblablement, ils s'en foutaient. Dans cette zone de taudis ne vivaient que des pauvres ou des vieillards. Il fallait un délit majeur pour décider les flics à se propulser vers l'amas d'immeubles, de décharges, de parkings et de caillasses, connus sous le nom de Cromwell Village. Rien de tel pour ajouter à la misère qu'un tas de constructions basaltiques censées y remédier. Il se gara, fit son choix parmi les escaliers pisseux et grimpa dans l'obscurité jusqu'à la porte marquée G de l'immeuble 4. Une boîte de dragneaux, pleine, traînait sur le seuil. Il la ramassa d'instinct, tout en se demandant combien de gosses venaient jouer ici, et en se rappelant fugitivement ses propres réflexes protecteurs à l'égard de ses enfants au fil des années. Il venait d'agir de la même manière. Il utilisa la boîte pour frapper à la porte. Il entendit jouer la serrure et la porte s'ouvrit, retenue par une chaîne de sécurité. La fille, Kimberly Hawkins, risqua un œil.
« Oui ?»«
Salut, c'est moi, Bob. »« Qu'est-ce que tu tiens ?»« Dragneau. » »« Sans blague. » Elle défit la chaînette. Cette fille semblait totalement apathique. Et sa voix à l'avenant. La déprime totale chez Kimberly. Il s'en rendait compte. De plus, elle avait un œil au beurre noir et la lèvre fendue. En pénétrant dans le petit appartement crasseux, il constata que toutes les fenêtres étaient brisées. Des éclats de verre partout sur le sol. Des cendriers renversés, des bouteilles de coca. « Seul ?» demanda-t-il.
« Ouais, on s'est disputé, Dan et moi, et il a filé. »
Moitié chicano, petite et pas trop jolie, Kimberly avait le teint plombé de ceux qui se défoncent à la poudre. Elle baissa ses yeux vides, et il fut frappé au même instant par le côté râpeux de sa voix, dès qu'elle ouvrait la bouche. Certaines drogues font ça. Oui, et une infection de la gorge aussi. Ça devait pas être possible de chauffer l'appartement, pas avec les vitres brisées. Il t'a battu. Arctor posa la boîte de dragneau au-dessus de quelques bouquins porno en édition de poche, anciens pour la plupart, qui s'empilaient sur une haute étagère.
Il n'avait pas sa lame, Dieu merci. Son couteau case, il le trimballe dans un étui fixé à sa ceinture maintenant.
Kimberly s'assit dans un fauteuil pansu d'où giclaient des ressorts.
Qu'est-ce que tu veux, Bob? Je suis dans la déprime, vrai.
Tu veux qu'il revienne?
Bah...
Elle eut un petit haussement d'épaule.
« Qui sait ?»
Arctor alla jeter un coup d'œil par la fenêtre. Dan Mancher se pointerait tôt ou tard. La fille était une source de revenus. Et Dan savait qu'elle aurait besoin de ses doses une fois que son stock serait épuisé. « Tu peux tenir combien ? » demanda-t-il.
« Encore un jour. »
« Pas d'autre source ?»«
Si, mais plus cher. »
« Qu'est-ce qui va pas avec ta gorge ?»
Coup de froid, c'est à cause du vent qui s'engouffre.
Tu devrais.
Si je vais voir un toubib, il saura que je marche à la poudre. Impossible.
Un toubib s'en foutrait.
Tu parles qu'il s'en foutrait.
Elle dressa l'oreille. Un bruit d'échappement, fort mais irrégulier.
C'est la voiture de Dan, une Ford Torino 79 rouge.
De sa fenêtre, Arctor aperçut une Torino rouge cabossée, qui s'arrêtait dans le terrain vague en crachant une fumée noirâtre par ses conduits jumeaux. La portière s'ouvrit, côté conducteur. « Oui !» fit-il. Kimberly alla jusqu'à la porte et boucla les deux verrous de sécurité.
« Il a sans doute sa lame. »«
Tu as le téléphone ?» demanda Arctor.
« Non. »«
Tu devrais. » Elle haussa les épaules. « Il va te tuer !» reprit Arctor.
« Plus maintenant avec toi ici. »
« Mais plus tard. » Quand je serai parti. » Kimberly se rassit avec un nouveau haussement d'épaule. Au bout d'un moment, ils entendirent des pas à l'extérieur, des coups frappés à la porte, puis Dan qui gueulait pour qu'on lui ouvre. Kimberly hurla que non et que quelqu'un était avec elle.
« Dak !»
beugla Dan de sa voix haut perchée.
« Je vais taillader tes pneus !»
Il redescendit 4 à 4. Arctor et la fille purent l'observer par la fenêtre brisée. Dan Mancher, un maigrichon aux cheveux courts, et à l'allure un peu homo. Il approchait de la Dodge de Kimberly en gesticulant avec sa lame et en donnant la sérénade au voisin.
« Je vais taillader tes pneus, tes putains de pneus! Et après, je vais te buter !»
Il se baissa et exécuta la première de ses menaces. Kimberly s'anima tout d'un coup. Elle bondit vers la porte et se mit fiévreusement à ouvrir les verrous.
« Faut que je l'arrête! Il me démolit tous les pneus! J'ai même pas d'assurance !»
Arctor l'arrêta. « Ma voiture est aussi dehors. » Naturellement, il ne portait pas son revolver sur lui. Et Dan se trouvait là, dehors, complètement déchaîné et armé d'un poignard Case. « Les pneus, ce n'est pas... »«
Mes pneus !»
La fille hurlait et s'acharnait à ouvrir la porte. « Tu es juste en train de faire ce qu'il voulait. »«
En bas !»
Kimberly haletait.
« On pourrait appeler les flics. Il y a un téléphone. Lâche-moi !»
Elle se débattait avec une vigueur incroyable et parvint à ouvrir la porte.
« Je vais appeler les flics, mes pneus, et il y en a un de neuf !»«
Je t'accompagne !» Il la saisit par l'épaule. Elle le précéda dans l'escalier et il eut toutes les peines du monde à la suivre. Elle frappait déjà à la porte d'un autre appartement.
« Ouvrez-moi, je vous en supplie, s'il vous plaît! Je veux appeler la police! S'il vous plaît, laissez-moi appeler la police !»
Arctor parvint à sa hauteur et frappa à son tour. « Nous avons besoin d'utiliser votre téléphone. C'est une urgence !» Un vieux, vêtu d'un chandail gris, d'un pantalon à plis et portant cravate, vint leur ouvrir. « Merci !» fit Arctor. Kimberly fonça jusqu'au téléphone et demanda l'opératrice. Arctor demeura face à la porte, prêt à affronter Dan. Le silence n'était plus coupé que par le jacassement de Kimberly au téléphone. Un récit aussi bidon qu'embrouillé, où il était question d'une dispute au sujet d'une paire de bottes à 7 $.
« Il a dit qu'elles étaient à lui, parce que je les lui ai apportées à Noël. Mais sont à moi, parce que c'est moi qui les ai payées. Et alors il a commencé à les prendre. Et alors j'ai déchiré l'arrière avec un ouvre-boîte, et lui !»
Elle s'interrompit, écouta. Puis avec un hochement de tête.
« D'accord, merci. Oui, je reste en ligne. »
Le vieux observait Arctor, et Arctor observait le vieux. Dans la pièce voisine, une vieille en robe imprimée les observait tous les deux sans un mot, le visage raide de peur. « Ça doit être moche pour vous, » lança Arctor à l'adresse du couple.
« Ça n'arrête pas, » répondit le vieux. « On les entend toute la nuit, nuit après nuit, à se disputer, lui qui dit toujours qu'il va la tuer.
« On aurait dû retourner à Denver, » coupa la vieille. « Je te l'ai dit qu'on aurait dû y retourner. »
« Toutes ces abominables disputes, » reprit son compagnon. « Et tout ce qu'ils peuvent casser, et tout ce bruit !»
Il lança un regard douloureux vers Arctor, comme pour quémander de l'aide, ou simplement de la compréhension.
« et ça continue sans jamais s'arrêter, et encore il y a pire. Savez-vous que chaque fois... »«
Oui, dis-lui donc ça !»
encouragea la petite vieille.
« Le pire, » déclara le vieux d'un air digne, « c'est que chaque fois que nous sortons, chaque fois que nous allons faire les courses ou poster une lettre, nous marchons dans... Vous savez bien, ce que les chiens laissent sur les trottoirs !»«
Leurs besoins !»
précisa la vieille, soulevée d'indignation.